Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
Monsieur Philippe Schneider, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc secrétaire de l'association du Pardon International et aussi en commission pour la caravane du Pardon. Vous êtes au téléphone pour nous annoncer une date sur le Vercors, le 29 septembre 2024, ça sera un dimanche, à partir de 9h. Et en quelque sorte, ça sera une sorte de cérémonie. Et vous allez peut-être nous présenter cet aspect-là. Et puis, nous aborderons aussi Monsieur Clerc, le fondateur de cette association. Alors, pour vous, que représente ce lieu qu'est Vassieulles-en-Vercors pour cette association pour le pardon international?
Alors, l'idée de faire une caravane de pardon est d'initiative d'Olivier Clerc, qui donc lui a créé les cercles de pardon en 1999, et donc depuis créé l'association Pardon International. En 2015. Un cercle de pardon, c'est un cercle qui se fait dans un lieu fermé, dans un lieu clos, qui se fait chez les gens ou dans une association. Et l'idée de la caravane, c'est d'aller sur des lieux emblématiques qui ont vécu une grande souffrance. Alors, en 2018, on a été au-dessus d'Annecy, sur le plateau des Glières, également un lieu de la haute résistance. En 2019, on a été dans les Vosges sur les traces de la guerre 14-18. Et donc, il était prévu en 2020 d'aller dans le Vercors, on va sur le Vercors. Et puis bon, voilà, les événements ont fait que la date a été retardée. Et donc, Vassieulles-en-Vercors, c'est un village qui est un village martyr, voilà, qui a souffert. Beaucoup souffert la dernière guerre mondiale. Et donc, le réseau de résistance a été très important. Donc, voilà, nous avons souhaité continuer cette démarche de caravane par cette nouvelle initiative. Donc, effectivement, à Vassieulles-en-Vercors dimanche, à partir de 9h. Donc, de 9h à 10h, il y aura les inscriptions, le pot d'accueil. Et puis après, il y aura des prises de parole. Et puis ensuite, on ira déambuler autour du village. Et puis trouver sur un lieu où on se retrouvera en cercle et puis on fera cette cérémonie.
Alors, Monsieur Olivier Clerc, fondateur de ce cercle international du pardon, en quelque sorte, a été influencé par un auteur mexicain, Monsieur Miguel Ruiz, qui est aussi a travaillé sur des règles Toltec.
Oui, alors il se trouve qu'Olivier Clerc donc est écrivain, il a écrit plus d'une vingtaine de livres et puis il est aussi traducteur. Donc il a traduit des grands auteurs donc Don Miguel Ruiz, il a traduit en français l'ouvrage de Don Miguel Ruiz à la demande d'ailleurs de Claude Séjournant qui est une autre femme qui a été française qui a été séduite par la démarche de Don Miguel Ruiz. Donc, il a d'abord traduit ce livre et puis ensuite, en 1999, comme je disais tout à l'heure, il a été se rendre au Mexique pour rencontrer Don Miguel Ruiz. Et donc, il a participé à un séminaire au milieu des pyramides Toltec, etc. Et dans des hauts lieux de cette obédience. Et bien, donc, il a reçu un rituel du pardon que Don Miguel Ruiz lui a offert. Il lui a demandé à un moment donné de s'agenouiller devant la personne qui était à sa droite et de lui dire « je te demande pardon ». Et il n'a pas fini, il lui a dit eh « ben, tu vas faire le tour et tu vas dire à tout le monde « je te demande pardon ». Et il a vécu quelque chose de très fort et il s'est rendu compte qu'en fait, en disant « je te demande pardon » à une personne qu'on ne connaît pas, il se passait des choses. Et ça a mis encore 10 ans pour qu'il mette au point ce cercle Donc, c'est un cercle où on se retrouve, on peut être quelques personnes, 10, 20, 30, 40, 50, plus même. Et en fait, la dernière étape de ce cercle, c'est de se retrouver en face d'une personne à qui on dit « je te demande pardon ». Et la personne qui est en face va me dire « je te demande pardon » et on va le faire avec plusieurs personnes, hein, une vingtaine, pas plus parce que ça prend trop de temps. Et chaque fois, alors moi qui ai animé une cinquantaine de cercles de pardon, chaque fois c'est assez bluffant, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que chaque fois, chaque personne étant différente, chaque fois ce contact par les yeux, par « je te demande pardon », c'est important, c'est le « je te demande pardon » et on entend ce « je te demande pardon », il se passe quelque chose. Moi, j'ai vécu ça en 2015 quand j'ai rencontré Olivier Clerc. Il a animé un cercle, on était 120 personnes, c'était quelque chose de fou. Et je me suis retrouvé en face d'une personne qui avait l'âge de mon père et qui m'a dit « je te demande pardon » et je suis tombé en pleurs, je n'ai pas compris ce qui se passait. Mon père, je précise, était mort à cette époque-là. Et en fait, voilà, c'est comme s'il avait été là. Et c'est ça la magie de ce rituel, en fait. C'est qu'on n'a pas besoin que la personne à qui, avec qui on a vécu des choses douloureuses soit présente.
La notion du pardon émane aussi de l'esprit chrétien, catholique. Est-ce qu'il y a un lien, justement, avec l'Église et cette association ?
Alors, il y a un lien avec le pardon des chrétiens, bien entendu, parce que nous avons tous, et Olivier en fait partie, une éducation judéo-chrétienne, mais il n'y a pas de lien entre l'association et l'Église. Voilà, Olivier a fondé cette association en toute liberté et en son nom, et dans la mouvance, j'irais, de la démarche Toltec, mais nous n'avons pas aujourd'hui de lien particulier avec l'Église.
Alors, il y a... une programmation hein, pour la journée à partir de 9h, donc avec un petit déjeuner d'introduction, plus des moments de discussion et aussi de promenade méditative, je crois.
C'est ça. Donc l'idée, en fait, c'est de s'imprégner aussi du lieu. Voilà, en fait, on l'a bien compris, il y a les cercles de pardon qui se vivent dans une certaine intimité, les personnes entre elles. Là, on est dans une démarche un peu plus grande, effectivement, puisqu'on est sur des lieux qui ont vécu des souffrances. Et donc là, l'ambition, c'est d'alléger cette souffrance. Voilà, ça peut paraître ambitieux, mais encore une fois, on va rester sur la base de ce même rituel parce que ça va se passer entre les personnes qui sont là, mais sur un lieu qui a vécu de la souffrance. Donc, ce pardon qui va être vécu entre les personnes ne va pas seulement, aider chaque personne, mais va aussi aider le lieu. Voilà. Parce que à la fin du rituel, en fait, une fois qu'on s'est tous demandé pardon, c'est ce qui va se passer. Alors, tous, je dis bien, on va être entre 80 et 100. Donc, on ne pourra pas dire pardon à tout le monde parce qu'on est trop nombreux. Quand on est 15 ou 20, c'est possible. Mais donc, à la fin du rituel, donc on se demande pardon à chacun. Après, on demande pardon à plus grand que soi. Donc, voilà.
Qui est plus grand que soi ? Pardon, qui est
plus grand que soi ? On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la nature, le créateur, le grand architecte. Enfin, vous voyez, tous ces termes qui sont ouverts à chaque obédience, en fait. Voilà, chacun comprend quelque chose, il y a quelque chose de plus grand que soi. Le pardon au bouc émissaire, voilà, c'est extrêmement important. On passe son temps à critiquer, à dire c'est la faute d'eux. Voilà, bon, et ben on demande pardon à tous ces gens, toutes ces institutions dont on a rendu responsable, y compris Dieu d'ailleurs, de tous les malheurs du monde. Et puis après, on se demande pardon à soi-même. Voilà. Et pour finir, et c'est là où on ouvre ce cercle, on demande pardon à la terre, à tout ce qui se passe sur la terre, quoi. Donc c'est une démarche qui dépasse simplement notre petite souffrance.
À qui s'adresse ce rassemblement, selon vous ?
Alors, en priorité, on a communiqué à l'intérieur de l'association, puisqu'on est quand même 500 animateurs de pardon. Et donc, la première chose, on a fait ça. Et puis, on a laissé aussi la liberté à chaque animateur de pardon de communiquer avec son propre réseau. Et puis là, alors c'est un peu une première, là, vous êtes le premier journaliste qui m'interviewait sur cette démarche-là. Les démarches précédentes, on n'a pas contacté la presse, on ne s'en sait peut-être pas prêt, voilà, etc.
Donc, alors, c'est, en fait, nous avons reçu un appel de votre part ou de quelqu'un de votre connaissance hein, pour nous signaler cette organisation.
Tout à fait, donc c'était bien notre volonté, mais c'est un peu nouveau. Et donc, votre question est intéressante parce qu'à qui s'adresse ? Et donc, les auditeurs qui écoutent là, ben après, voilà, c'est une démarche qui touche le cœur. Et donc, si un auditeur se sent touché d'aller sur un site qui a de la souffrance, en groupe, voilà, en une centaine de personnes, c'est quand même c'est assez impressionnant. Enfin, de se retrouver en cercle à 100 personnes, animé par Olivier Clerc, qui lui, une grosse expérience de ce genre de manifestation. Là, il va participer à New York dans quelques jours à un séminaire international sur le pardon. Enfin, il a vraiment une obédience mondiale. Et voilà. Et donc, si on se sent touché, si notre cœur se sent touché par le pardon, d'ailleurs. D'abord, pardon, le pardon pour soi-même, c'est-à-dire que voilà, est-ce que j'ai encore des choses à pardonner ? Ben, je pense que chacun, on en a, et si c'est important, plus ou moins important, ça peut être du vécu personnel, voilà, on peut poser des choses, et dans ces cercles de pardon, c'est ce qu'on fait, on pose des choses, et ça nous, c'est vraiment une guérison du cœur. Donc, si on se sent appelé par ça, voilà, par cette guérison du cœur, et cette démarche supplémentaire, c'est de la guérison d'un lieu qui a eu de la souffrance, voilà.
Justement, par rapport à cette proposition émanant de vous, il y a cette illustration d'un cimetière hein, de résistants, oui. J'imagine. À ce moment-là, à qui demander pardon ?
Alors, comme je le disais, ce qui est très important, c'est le « je ». « Je te demande pardon ». Quelque part, je parlais tout à l'heure des boucs émissaires. On pense que passer son temps à trouver des responsables à l'extérieur de nous-mêmes, c'est pas productif. Voilà, ça c'est notre point de vue. Hein. On peut avoir un point de vue différent, bien entendu. C'est pas productif, c'est plutôt négatif. Et nous pensons plutôt que voilà, nous avons notre propre responsabilité dans tout ce qui se passe dans le monde, voilà, ce serait vraiment une croyance, c'est que nous sommes tous interconnectés, tous liés par quelque chose de plus grand, je le disais tout à l'heure, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler le grand architecte, le créateur, etc., la création, la nature. Et donc, dans ce lien que nous avons avec ce tout, nous avons un rôle à jouer pour que la paix s'établisse dans le monde. Voilà.
Oui, il y a aussi un lien avec les constellations, hein, je crois.
Oui, vous avez raison, parce que les constellations, c'est une démarche qui est complémentaire, qui est très différente, hein, mais qui peut être tout à fait comparée, c'est-à-dire d'aller chercher en soi-même la racine de nos blessures, avec des témoins. Alors, c'est pareil, dans une constellation, on va dire, voilà, telle personne, tu joues le père, telle personne, tu joues la mère, etc. Là, dans le cercle de pardon, il n'y a pas de directivité. En fait, on va se retrouver en face de personnes qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'avance qu'elles sont là. Ben, et on va vivre quelque chose avec son père, avec sa mère, avec son ex, avec son fils, sa sœur, etc., suivant finalement ce qu'on a à guérir.
Alors, pour en connaître plus, vous avez un site internet, j'imagine, pour pouvoir s'y inscrire également.
Alors, effectivement, il y a un site internet qui, en particulier, vous permet d'aller voir s'il y a des animateurs dans votre région, à côté de chez vous. Et il y a également un calendrier sur lequel il y a des cercles de pardon qui sont indiqués. Et vous pouvez vous inscrire, y participer. Voilà, il suffit de taper Association Pardon International et vous tombez sur ce site avec toutes les infos.
Philippe Schneider, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné un peu de votre temps pour cette journée donc, du 29 septembre à Vassieux-en-Vercors. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Ben, merci beaucoup à vous pour votre accueil et pour votre écoute. Et puis j'espère que ce témoignage pourra inciter certaines personnes à nous rejoindre avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Max Bouvard, qui propose un spectacle d'autofiction intitulé Le Grand Écart. Et avant de l'écouter, nous allons, à sa demande, passer un morceau de José Courty qui s'appelle Coude à coude. Max Bouvard, bonjour.
Bonjour.
Max, nous sommes au téléphone avec vous pour nous parler d'un spectacle que vous proposerez donc à la Maison Oiseau ce samedi 28 septembre à Recoubeau-Jansac. Ça débutera avec une ouverture des portes à 19h et ce spectacle donc à 20h. Et pour cela, ce spectacle s'intitule « Le Grand Écart ». Alors, avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Le spectacle s'appelle « Le Grand Écart », c'est un spectacle de la compagnie Gravitation. C'est une compagnie qui est basée à Besançon, dans le Doubs. Et c'est un spectacle où on s'amuse à mélanger le vrai et le faux. Ça se présente comme une espèce de veillée dans laquelle quelqu'un viendrait raconter sa vie. Ce quelqu'un, c'est moi. Donc, je me présente sous mon véritable nom, Max Bouvard. Et je viens présenter un film documentaire avec un argument particulier qui est le fait que je pars en vélo Je fais un périple en vélo entre Roubaix, où j'habite, et le Jura, où je suis né et j'ai grandi, pour aller enterrer le placenta de la naissance à domicile de ma fille. C'est assez abracadabrant comme ça. Mais c'est l'argument de départ. Très vite, ce film s'arrête et je prends la place. Et ça devient un spectacle avec beaucoup de liens entre la scène et la vidéo. Vidéo dans laquelle je discute avec mon père, avec des amis d'enfance qui sont restés au village, avec des gens qui m'ont marqué dans les rencontres.
C'est en quelque sorte une autobiographie.
Oui, carrément. Ça se base. C'est pour ça que ça s'appelle le grand écart. C'est la ligne directrice serait l'écart entre le milieu d'origine et le milieu d'adoption. Dans mon cas, le milieu d'origine, c'est un milieu, c'est le milieu de l'agriculture jurassienne, pas mal teinté de silence, on va dire. Et puis, mon milieu d'adoption, c'est le milieu culturel où le fait d'être à l'aise avec la parole est plutôt bienvenu. Donc, c'est l'écart entre ces deux mondes-là. Et c'est aussi comment, en prenant un exemple très particulier, qui est mon exemple, on parle un peu plus au général, c'est-à-dire comment chacun on fait pour s'accommoder entre son milieu d'origine et son milieu d'adoption.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de proposer le grand écart ?
Alors, c'est parti de textes, de petites histoires personnelles que j'écris. Et puis, en partageant ça autour de moi, je l'ai partagé aussi avec Jean-Charles Thomas, qui est un metteur en scène avec lequel je travaille depuis longtemps, qui me connaît bien. Et c'est lui qui a estimé qu'on pourrait en faire quelque chose d'intéressant. Et si moi, j'avais fait ça tout seul de mon côté, je me serais tenu à quelque chose d'assez classique en enchaînant ces petites histoires. Et lui, qui est metteur en scène et qui aime bien s'amuser avec plein de fils qu'on tresse comme ça. Dans ce spectacle, on ouvre plein de portes dans la première partie, et puis petit à petit, ces portes se croisent et viennent se résoudre à la fin. Donc voilà, c'est aussi le fait de travailler avec quelqu'un avec qui on se connaît bien. On travaille depuis 30 ans ensemble, et c'est ça qui fait, je pense, la force de ce spectacle aussi.
Vous parliez de ce silence du Jura. Comment peut-on définir ce qu'est le Jura aux auditeurs ?
Le Jura, c'est un endroit... C'est un endroit merveilleux auquel je suis très très attaché, forcément, parce que j'y suis né, j'y ai grandi. C'est très beau. Après, c'est pas le Jura qui est teinté de silence, mais je pense en tout cas, au fur et à mesure que je le joue, ce silence dont je parle, il y a beaucoup de gens issus d'un milieu rural, la paysannerie, pour qui ça résonne pas mal. C'est-à-dire le fait de, en tout cas, ne pas trop parler, ne pas trop prendre du temps à s'intéresser à ses émotions, parce qu'il y a plein de choses beaucoup plus utiles et rentables à faire, qui plus est dans une ferme. Et le fait de parler de soi n'est pas véritablement en bienvenue. C'est pour ça que ça me paraissait intéressant de le mettre en regard avec un milieu où c'est plutôt l'inverse.
Et donc, vous avez envisagé donc remonter vers le nord, aller vers la culture. Pour vous, c'était peut-être aussi une nécessité de pouvoir rompre ce silence et de l'exprimer.
Ça a sûrement fait partie de cette espèce de choix qui était un peu étonnant dans mon milieu d'origine que d'aller vers le milieu du théâtre. En tout cas, ça a été une nécessité à un moment donné de couper et de partir et de que... C'est aussi de ça dont je parle, c'est le fait d'être chargé d'une histoire familiale et d'un seul coup, je suis le premier depuis je sais pas combien de générations à ne pas embrasser la carrière de l'agriculture. C'est-à-dire que d'un seul coup, moi, qui était le seul fils de la famille, je n'ai pas repris la ferme, ce qui est commun à beaucoup de fils de paysans de ma génération. Hein. C'est pas très original, mais en tout cas, forcément, ça représente un poids aussi, et puis une négociation parfois houleuse, en tout cas au moment de la rupture avec sa famille. Et donc, oui, ça a été une nécessité, en tout cas, d'aller voir ailleurs.
Ce spectacle, Le Grand Écart, s'adresse à tous les publics?
Ça s'adresse à tous les publics, dans le sens où il n'y a absolument rien de qui peut heurter, quoi. Après, forcément, ça parle un peu plus aux adultes, on va dire. Les enfants, quand il y a des enfants, ils ne s'ennuient pas, parce que c'est un spectacle qui mêle vraiment à la fois des émotions et de l'humour, avec pas mal d'images. Donc, quand il y a des enfants, ça le fait aussi, mais ça s'adresse avant tout à des gens qui ont déjà vécu cette prise d'indépendance, en tout cas.
Voilà, ça commence en quelque sorte par un visionnage d'un film, en quelque sorte, et vous intervenez assez rapidement. Donc, pour cela, vous utilisez des vidéos que vous avez opérées vous-même et qui sont qui ont trait à votre famille.
Ouais, c'est ça. C'est des vidéos qui ont. Alors, ça commence comme un film dont je vous ai décrit l'argument, on va dire, et puis ensuite on mélange aussi des interviews qui ont pu savoir avec le documentaire. On interviewe notamment le Adrien, qui est le jeune paysan qui a repris la ferme à ma place, et puis on le questionne sur lui, qui n'est d'ailleurs pas fils de paysan, qu'est-ce qui fait qu'il a fait ce choix-là, quel choix inverse du mien. Donc ça nous paraissait intéressant. Et puis l'interview aussi d'une amie d'enfance on a grandi ensemble, qui a le même âge que moi, qui est partie en même temps que moi pour un autre monde aussi, pour le monde plutôt de l'art contemporain, et qui, elle, a fait le choix, au moment d'avoir des enfants, elle a fait le choix de revenir et de se réinstaller dans le village. Donc, de la même façon, ça nous paraissait intéressant aussi d'avoir son...
Et ce désir, vous parliez de cette amie d'enfance, est-ce que ça éveille en vous peut-être l'intérêt de revenir aussi à cette terre natale?
Non.
Non.
Non. En tout cas, faire ce spectacle, parce que c'est un spectacle, même si on s'y amuse pas mal, souvent les gens après... Alors, c'est un spectacle que j'aime beaucoup jouer, parce que ça donne très envie aux spectateurs de discuter après. Donc souvent on a des longs moments derrière des discussions, et comme je me livre beaucoup dans ce spectacle, ça leur donne à la fois envie de se livrer sur les échos que ça leur fait, et puis aussi ils me questionnent pas mal sur le côté un petit peu psychanalytique de ce spectacle, entre guillemets. Alors pour moi c'est pas du tout un spectacle psychanalytique, c'était pas ça l'envie, mais en tout cas quelque part, en faisant ce spectacle, j'ai un peu bouclé cette boucle là c'est-à-dire que je sais que je ne retournerai pas vivre là-bas, parce que ça n'aurait plus de sens pour moi, mais c'est à l'inverse d'un spectacle où j'aurais pu régler des comptes avec cet endroit. Tout ça, c'est plutôt un spectacle où les fils se retissent et je renoue ces fils-là, quoi. C'est une façon, c'est un peu ma façon d'y retourner, quoi.
Pour vous connaître, est-ce qu'il y a aussi une page internet?
Alors, il y a la page internet de la compagnie Gravitation, avec différents spectacles qui tournent. C'est une compagnie où on a beaucoup tourné dans un réseau plutôt marqué tête de rue, avec des spectacles participatifs sur le collectif, sur les utopies. Donc, on a écumé un peu toute la France avec ces spectacles-là. C'est une page internet aussi où il y a des extraits du Grand Écart, il y a les dates aussi programmées. Voilà.
C'est un spectacle qui tourne beaucoup en France.
C'est un spectacle qui a beaucoup tourné. On l'a créé en 2021 au Festival de Chalon-sur-Saône. C'est un spectacle qui a joué une cinquantaine de fois. Et voilà, et puis là on a envie d'éventuellement l'emmener au Festival d'Avignon l'année prochaine pour qu'il continue sa vie.
Il aura peut-être de quoi se rafraîchir ou de substanter.
C'est ça, complètement. Il y a les portes s'ouvrent avec un bar et grignotage ouvert avant le spectacle et après, et notamment après, pour pouvoir en discuter autour d'un verre.
Max Bouvard, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné un peu de temps.
Bien.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir. Au revoir.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Tout de suite, nous allons écouter un morceau de Clara Núñez intitulé Lina Domar, et ça va introduire l'interview avec Sylvain Estan pour l'association Roda Viva Samba. À tout de suite.
Vou-me embora desse mundo de ilusão. Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar.
Flechas sorrateiras, cheias de veneno, querem atingir o meu coração. Mas o meu amor, sempre tão sereno, serve de escudo pra qualquer ingratidão. Galo cantou,
galo cantou às quatro da manhã. Céu azulou na linha do mar. Vou-me embora desse mundo de ilusão. Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar. Vou-me embora desse mundo de ilusão. Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar.
Flechas sorrateiras, cheias de veneno, querem atingir o meu coração. Mas o meu amor, sempre tão sereno, serve de escudo pra qualquer ingratidão.
Galo cantou, às quatro da manhã. Céu azulou na linha do mar. Vou-me embora desse mundo de ilusão. Não há de me ver chorar. Vou-me embora desse mundo de ilusão. Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar.
Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Et Stan.
Oui, Stan, bonjour.
Bonjour Stan. Alors, vous êtes tous les deux ici pour l'association Roda Viva Samba qui propose des ateliers tous les mercredis à midi jusqu'à 13h30, à Trajet Spectacle, des ateliers pour justement s'initier à la musique rythmique brésilienne notamment.
Absolument, la samba.
Alors, vocal en particulier, là, sur ces ateliers-là, il y a toujours une part rythmique, mais c'est principalement du chant.
Alors, le chant, justement, comment se pratique cet atelier au niveau du chant? Est-ce que c'est un chant de rythme ou un chant d'expression aussi
Il y a les deux, hein, ça s'interprète aussi. Après, voilà, c'est des chansons très festives en général, c'est de la chanson populaire brésilienne, hein, qui parle des histoires de quartier, des histoires d'amour, tout ce qu'on peut retrouver dans la chanson populaire du monde entier, très festive, très, très conviviale. Voilà, donc les ateliers accompagnés par Stan au cavaquinho, ou qui est une petite guitare à quatre cordes aiguë, qui ressemble étrangement à un ukulélé, mais qui n'est pas un ukulélé.
Qui est son grand-oncle.
Et quelle est cette particularité? Donc, ce sont des notes plus aiguës, c'est ça?
Oui, en fait, l'idée de cet instrument qui accompagne le samba depuis bientôt un siècle et demi, C'est avec des cordes d'acier, avec une tonalité, enfin un registre à l'octave de la guitare. C'est de pouvoir être entendu même si on a pas mal de percussions et de donner une sorte de tapis harmonique de support aux voix. Voilà.
Harmonique et rythmique.
Et rythmique aussi. Et dans le rythmique, ben, Sylvain qui joue du pandeiro, le pandeiro qui est, nous on l'appelle, médiévalement parlant, on l'appelait le tambourin, mais c'est un tambourin avec des cymbales tout autour. Donc au Brésil, il est utilisé aussi dans quasi tous les registres musicaux. Et il peut, à ces deux instruments, on peut à peu près voyager sur l'ensemble des propositions rythmiques et harmoniques du samba.
Le samba, sa naissance date de quand? Et est-ce qu'il y avait justement des précurseurs sur cette musique?
Début du 20e, fin du 19e, début du 20e?
Alors, même au Brésil, les musicologues se tirent la bourre à savoir d'où c'est né, comment c'est né. Et c'est justement, je pense, l'histoire de toutes ces musiques populaires, c'est d'avoir fleuri à peu près en même temps dans différents endroits, parce que la recette, elle était super efficace, à savoir un mélange de rythmes traditionnels qui viennent plutôt des populations africaines qui avaient été esclavagisées ou indiennes d'Amazonie et les danses populaires de bal, de salon que les colons italiens, polonais, portugais avaient ramené dans les villes. Et c'est au contact, après l'abolition de l'esclavage, au contact des deux populations dans les faubourgs des grandes villes, que c'est créé petit à petit cette forme assez originale brésilienne qui est la samba, ou le samba ou la samba, ça dépend comment.
La samba, c'est aussi en quelque sorte oublier les malheurs, la dureté de la vie aussi, et c'est ce qu'on retrouve souvent dans des pays en voie de développement ou qui sont peut-être fort démunis, et la musique est en quelque sorte un réconfort aussi, qui relie aussi les gens.
Complètement.
Oui, ça parle beaucoup
des petits problèmes du quotidien. Hein. Et là-bas au Brésil, c'est vraiment un ciment social hyper, hyper, hyper fort.
Et Sylvain, justement, par rapport à l'actualité brésilienne hein, de nos jours, qui se révèle extrêmement difficile, est-ce qu'il y a en écho, c'est une réponse ou alors aussi une inspiration dans la samba?
Complètement, de plus en plus de chants qui vont parler de politique, beaucoup de autour du féminisme aussi, il y a beaucoup de choses qui ressortent en ce moment,
autour plein de l'écologie,
de l'écologie aussi. Ouais, non, ça touche à vraiment tous les problèmes de société. Souvent, ça y met pas mal d'humour, d'autodérision. Aussi, c'est assez marrant.
Et tout en restant aussi festif, parce que le samba, ce genre musical, il est aussi toujours accompagné de la samba, la danse qui se décline depuis les salons jusque dans la rue, quoi.
Alors, il y a ces propositions d'ateliers, dont un existe à Cré depuis quelques années,
ouais,
déjà.
C'est la troisième année, là. On est une bonne petite quinzaine de personnes, voilà. Et on a commencé ça à 10, cette année, voilà, avec donc du travail de répertoire, c'est-à-dire apprendre des chansons, un peu de travail, de la technique vocale aussi, adaptée au chant, à la chanson populaire, hein.
et un peu de
travail rythmique aussi, parce que c'est indissociable. Voilà, et on vous invite grandement à venir partager ça avec nous, parce que c'est le kiff, voilà, tout simplement, c'est le kiff. Tous ceux qui ont goûté, après, ils sont accros, et voilà, avec en plus très peu d'effets secondaires, quoi, à part chanter plus sous la douche.
Voilà. À consommer avec modération, tout de même?
Non.
Même pas. Moi, je ne connais pas de contre-indications. Alors, si, bon, après, il faut savoir aussi écouter d'autres choses au bout d'un moment. Faut pas, quand on tombe dans le samba, des fois, on en connaît qui n'arrive plus à sortir de là. Non, on peut aussi rester curieux. Mais c'est vrai qu'il y a cette force d'imprégnation auditive.
Justement,
je pense qu'on pourra passer un ou deux morceaux pour montrer, mais qui associe un groove vraiment qui est afro-brésilien, on peut le dire, hein, et aussi un peu indio-brésilien,
oui,
mais
aussi, hein, complètement.
Plein de jeux de mélodies et d'harmonies qui sont toujours dans une musique tonale, donc qui est pas dissonante. Et ça, plus, comme tu disais, de l'humour qui transparaît un petit peu dans les intonations des voix, c'est quelque chose qui est assez, assez, assez addictif. Ouais.
La samba, est-ce qu'elle a un rythme propre à elle, ou alors aussi, il peut y avoir des déclinaisons ?
Oui, il y a des déclinaisons. Souvent, ça se joue plutôt sur des détails du rythme, mais il y a plusieurs formes de samba, que ce soit sous sa forme rythmique ou même sous sa forme poétique. Voilà, dans le chant, il y a plein de façons. Voilà, il y a le samba de break, qui est un samba où d'un seul coup ça s'arrête et puis le chanteur se met à raconter quelques conneries et puis hop, il reprend d'un seul coup et puis hop, tous les musiciens ils le suivent. T'as le samba enhe, donc le samba du carnaval, là, qui sont sur des rythmes très très rapides.
Qui est très épique.
Et des chants, voilà, très, très épiques, en effet. Après, il y a ce qu'on appelle le samba cansin, qui va être plus des balades ou des chansons.
T'as
le
samba
partido out, qui est l'improvisé, qui est un chœur qui chante une partie, et des solistes qui improvisent des couplets, ou souvent sous forme de joute. Voilà, ça se fait,
voilà,
ça se fait beaucoup.
Le...
Voilà, il y a vraiment plein de formes. Le samba di roda, qui est... plus du coup de Salvador de Bahia qui se joue en cercle avec les gens qui viennent danser au milieu. Voilà, il y a plein de formes différentes.
Cet atelier se déroule donc dans les locaux de Trajet Spectacle. Comment s'opère ce rendez-vous ? Il y a un échauffement en quelque sorte au départ,
ouais.
Et puis ensuite d'expérimenter, d'essayer.
Échauffement vocal, un petit chouille de technique voilà, qu'on dissémine au fur et à mesure de l'atelier en fonction de comment les gens chantent. Voilà, et puis après du répertoire. Ouais, mais on met bien l'accent sur quand même la technique vocale et qu'il y a une progression au niveau de ça. Voilà, c'est du chant populaire qu'il faut chanter quand même avec du volume pour pouvoir passer par-dessus des instruments. Et donc voilà, on met bien l'accent là-dessus.
Une autre forme de musicalité aussi, c'est l'apprentissage de la prononciation du langage portugais à la brésilienne. Donc bon, là, on a l'avantage que Sylvain soit franco-brésilien. Moi, ça m'est rentré dans les oreilles il y a presque 25 ans, donc j'arrive aussi à reconnaître un petit peu. C'est toujours pas mal quand on est dans une interprétation d'un registre musical étranger, de s'approcher au mieux quand même de la prononciation. C'est ce qui fait vraiment chaud au cœur après aux communautés de la diaspora brésilienne, ouais, européenne, quand ils viennent nous voir, ils disent « Oh là là, ça nous rappelle comme là-bas. »
Ouais, et puis dans le swing de la musique, la prononciation est importante en fait, parce qu'il y a vraiment un flow vraiment particulier. Voilà, donc on met un peu l'accent là-dessus aussi. Pardon.
Et ça s'adresse à tous les publics.
Absolument. De
14 ans.
De 14 à 94, ou ouais. 104, même
ouais,
s'il y en a
ans.
qui se sentent, il n'y a aucun problème, you're welcome. Ouais, tout public, tout niveau. Voilà, nous, on peut te dire, tout ce qu'on apprend techniquement, vocalement, c'est très organique, c'est très en rapport au corps. Il n'y a pas besoin d'avoir.
De connaissances musicales, techniques. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la plupart du temps, le chant est à l'unisson. Hein. On chante en chœur à peu près. Alors, Parfois, les hommes et les femmes peuvent se distinguer d'une octave, c'est-à-dire chanter la même note, mais pas au même endroit, un peu plus aigu, un peu plus grave. Mais voilà, ça demande pas des grandes notions acquises en harmonie ou en mélodie. Les mélodies sont... Alors ça peut changer d'un morceau à l'autre, mais on les choisit aussi de difficultés progressives en fonction des personnes qui sont là et de leurs compétences, quoi.
Ça nécessite une direction sur le moment de ces chants pour donner le rythme ou l'intonation, le sentiment aussi.
Alors souvent ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de chants, il y a un lead. Donc quelqu'un qui va faire qui va chanter les couplets, on va dire, et le chœur qui répond les refrains, qui répond sur les refrains, et donc le lead avec des petites phrases qu'il vient placer au milieu du chant donne plein d'indications au chœur pour savoir quand est-ce qu'ils doivent reprendre, quelles phrases ils doivent reprendre, voilà. Et ces interventions sont toujours chantées avec toujours une mélodie qui vient faire une sorte de petite improvisation par-dessus qui est très jolie aussi. Et voilà, donc c'est dirigé dans ce sens-là. C'est plutôt la personne qui lead, qui est au chant lead, qui va donner un peu la structure du morceau, quoi. Voilà. Et ça aussi, on aborde ça aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, une fois qu'on a tous travaillé bien le chœur, la prononciation, on donne la possibilité aux gens d'essayer de faire un lead, de faire une partie où ils sont seuls à chanter.
Donc la transmission est progressive comme ça. Au début, c'est nous qui faisons ces appels. Et puis petit à petit, ils peuvent être repris par les gens qui sont plus à l'aise, quoi.
Et ça y est.
Il existe une parité dans ce qui existe. Par exemple, la craie, il y a autant d'hommes que de femmes au chant et au rythmique. Est-ce qu'il y a un attrait aussi
Il y a tendance à avoir quand même plus de filles que de garçons. J'ai l'impression que c'est dans beaucoup de pratiques de...
culturel et
artistique
de groupe.
Souvent, voilà, on a des ateliers de percussion aussi où pareil, il y a quand même beaucoup de filles, un peu plus équilibré.
Mais après,
mais les garçons, venez chanter, vous avez des belles voix.
Oui.
C'est ce qui est en formation dans ces ateliers. Parfois, vous présentez au public. Est-ce qu'il y a de prochains rendez-vous?
Alors, Rodaviv, le groupe qui tourne, donc. On a un peu fini la saison quand même. Oui. Là, on a encore une date le 12 octobre à Bourg-les-Valences.
Bourg-de-Péage.
À Bourg-de-Péage, pardon.
Pour une soirée brésilienne qui est organisée par un bar-restaurant qui s'appelle le Maman. Et qui se trouve aux routes d'Alixan, si je ne me trompe pas.
Après, c'est pas impossible du tout qu'on en fasse une, nous, dans l'hiver, comme ça, pour nos amis d'Iwa, histoire de venir réchauffer.
Dans le cadre des activités de l'association Rodaviva Samba, on a aussi un volet plus instrumental, qui est un autre genre musical, toujours brésilien, qui s'appelle le choro, et qui nous amène à nous réunir sous forme de club de fidèles de ce genre musical à peu près tous les mois. Et de temps en temps, il arrive que les élèves de l'atelier de samba, de cré, ou quand ils seront prêts, de ceux de Di, nous rejoignent pour pousser une ou deux chansonnettes, quoi.
Pour vous joindre, comment opérer ?
06 07 40 83 30.
Voilà, c'est le numéro de Sylvain. Il n'a pas peur de donner son numéro perso. Je ne donnerai pas le mien. Je vais donner un mail qui est rodaviva.samba26@gmail.com. Voilà. Voilà. Sinon, vous nous retrouvez sur Facebook et sur Instagram, Rodaviva Samba.
Voilà. Si jamais vous voyez des affiches avec atelier de chant samba, eh ben, l'adresse mail, elle n'est pas bonne. J'ai pas mis 26 dessus. Donc voilà, il y a bien 26 après le rodaviva.samba26. Et sinon, voilà, vous pouvez m'appeler.
Précisément, le trajet spectacle qui est...
Le trajet spectacle qui sont sous la salle polyvalente de Di. Là, vous accédez par comme si vous alliez à l'école maternelle Chabestan, là, et au parking. Là, c'est juste là, à côté des Restos du Cœur.
Sylvain et Sten... ou Stan, merci beaucoup d'être venu sur RDIWA pour nous présenter votre atelier donc de Rodaviva Samba, et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Pareil, bonne soirée, bonne journée, ça dépend à quelle heure vous écoutez.
Et voilà, et pour cela, c'est terminé pour ce soir, et je vous souhaite une bonne soirée.
Okay, goodbye everyone.